Octave Mirbeau, Le concombre fugitif. Je vous dirais que j'aime les fleurs d'une passion presque monomaniaque. Les fleurs ne sont des amies silencieuses et violentes et fidèles. Et toute joie me vient d'elles. Mais je n'aime pas les fleurs bêtes, car, si blasphématoire que cela puisse paraître, il y a des fleurs bêtes, ou plutôt des fleurs, de pauvres fleurs, à qui les horticulteurs ont communiqué leurs bêtises contagieuses. Telles les bégonias, dont on fait dans les jardins aujourd'hui un douloureux étalage, au point que toute autre fleur en est exilée, et que toute la flore semble se restreindre à de stupides plantes dont on aurait dirait que les pétales sont découpés à l'emporte-pièce dans quelque indigeste navet. Pulpe grossière, artificielle, couleur, forme rigide, sans une grâce, sans une fantaisie, tige molle et gauche, sans une jolie flexion dans la brise, ni parfum, nul ne sortait d'elle. Son âme est pareille à celle des poupées, je veux dire qu'elle n'a pas d'âme, ce qui est à peine croyable. Au Mexique, où il pousse lentement, librement, on assure que le bégonia est charmant. Que ne l'a-t-on laissé là-bas? Oh, les jardins d'aujourd'hui, comme ils me sont hostiles! Et quel morne ennui les attriste! À quel rôle abject de tapis d'antichambre, de mosaïque d'écurie, de couvre-pieds de cocotte, les jardiniers, mosaïculteurs et cloisonneurs de pelouse n'ont-ils pas condamné les fleurs? Tout ce qu'elles peuvent avoir en elles de personnalités mystérieuses, tout ce qu'elles contiennent de symboles émouvants et de délicieuses analogies, tout l'art exquis qui rayonne en prodige de formes éducatrices de leur calice, on s'acharne à les leur enlever. On les oblige à disparaître, taillés, rognés, ébarbés, nivelés par un criminel sécateur, dans une confusion inharmonique, dans une sorte de tissage mécanique et odieux. Elles ne sont plus tolérées dans les jardins que la condition de dire la suprême sottise du jardinier, d'étaler par des chiffres et par des noms la richesse et la vanité du propriétaire. Les hommes exigent qu'elles descendent jusqu'à leur snobisme, jusqu'à leur vulgarité. Oh, rien n'est triste comme des fleurs asservies. Les fleurs que j'aime sont les fleurs de nos prairies, de nos forêts, de nos montagnes. Je vais demander à l'Amérique septentrionale la miraculeuse beauté de ses composés, la majesté de ses héliantes et de ses cypriums. Au Japon, je cherche l'obscène candeur de ses lys, l'exubérante et fameuse joie de ses pivoines, la verve folle de ses hippomées. L'Orient m'apporte toute la diversité innumérable de ses bulbes, l'extraordinaire chiffonnage de ses pavots, de ses anémones, de ses renoncules. Et que dire de la Suisse, où chaque pente de rocher sort une merveille de vie végétale, où le caillou est hospitalier à la petite graine qui se confie à lui, où la neige couvre et prépare les ardentes scènes printanières. Quel plaisir! Et je dirai quelque jour ce plaisir, je dirai aussi tout ce que les fleurs contiennent, non seulement de rêves, de beauté, mais d'excitation intellectuelle et d'éducation artistique. Quel plaisir de rassembler en un jardin tous ces êtres de miracle, de leur donner la terre qu'ils aiment, l'air dont ils se vivifiaient leurs délicats organes, l'abri dont ils ont besoin, et de les laisser se développer librement, s'épanouir selon leur fantaisie admirable et dans la norme de leur beauté. car les fleurs sont bonnes et généreuses pour qui sait les chérir. Il y a bien longtemps que je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle Sylphium albinorum. En vain, je l'avais demandé partout, aux horticulteurs, aux collectionneurs, aux muséums, aux jardins botaniques. Et en vain, je l'avais réclamé de l'Angleterre, de l'Amérique, de la Belgique, et même de ce botaniste passionné et charmant de Genève, M. Corvon, qui cultive dans ses curieux jardins de plein palais tout ce que la flore universelle peut donner de plante révélatrice de la beauté. Et comme je me désolais de l'inutilité de mes recherches, quelqu'un me dit « Je connais un bonhomme, qu'il a peut-être votre plante. Oh, c'est une espèce d'original très amusant et dont la coquetterie est de posséder des fleurs que personne ne possède. Il en a, paraît-il, d'extraordinaire. Allez le voir. Il habite Granville et, par une prédestination singulière, son nom est Hortus. » Le lendemain, j'étais à Granville. J'ai trouvé le père Hortus dans son clos. C'était un vieux petit bonhomme, très rouge de peau, très blanc de cheveux, et qui, en manche de chemise, le nez couvert d'un chapeau de paille en forme de fente, tente, jouait du cornet à piston devant son hibiscus. « Ah, je crois que ça y est, » me dit-il en m'apercevant. « Cette fois, je le tiens, le gredin. » Et comme je paraissais intrigué par cet accueil, le père Hortus m'expliqua. « Voilà. Moi, je n'aime que les plantes qui font des blagues. Seulement, je suis aussi rosquel et je les embête. C'est vous ce que je viens de faire ? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue un concert à piston jusqu'au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça le met en rage. Ça lui fait perdre la boule. Et il va se féconder de travers, c'est-à-dire qu'il va me donner des graines d'où sortira une espèce de monstre cocasse, qui sera un hibiscus sans en être un, qui sera une plante comme on n'en aura jamais vu. Je le félicitais vivement de ce procédé de culture et lui expliquais le but de ma visite. « Ah non, moi je n'ai pas ça, » me répondit le père Hortus. « Dis-moi, je ne sais pas si je l'ai, car j'ai un tas de plantes dont je ne sais pas le nom. Mais j'ai autre chose de bien plus curieux que tous vos sylphidiums. C'est le concombre fugitif. Ah, je vais vous le montrer. » Et il m'engagea à le suivre. L'enclos était vaste, divisé en carrés rectilignes et traversé par de larges allées herbues. Jamais, même dans un jardin abandonné, je ne vis pareil désordre. Les plates-bandes, les planches picturées, jamais rajeunies par la bêche ou l'humble binette, offraient l'indescriptible spectacle de plantes emmêlées les unes dans les autres, au point qu'il était impossible de les reconnaître. Et tout cela, jauni, roussi, jonchant la terre dure, disputant aux herbes folles le peu de fraîcheur resté dans le sol brûlé par le soleil. « Ah, vous allez rire !» me dit le père Hortus. Il s'arrêta devant une planche, se baissa, écarta quelques tiges séchées de phlox. « Ah, c'est là » dit-il. « Oh, c'est un concombre impayable que le concombre fugitif. » On va le voir, il n'a rien de particulier, mais dès qu'on veut le prendre, il fiche le camp, il s'en va au diable, impossible de le manier. » Et le père Hortus cherchait toujours à travers le lacis des tiges jaunes qu'il écartait d'une main brutale. « Mais je ne vois pas cet animal-là, mais où est-il ? Il est à se balader encore, oh !» C'est toujours la même chose. Quand on vient pour le voir, il n'est jamais là. Et se tournant vers moi, il me dit « Est-ce curieux, tout de même, un concombre ? Attendons un peu, il va peut-être nous aider tarder à pas revenir. » Je ne savais pas si le père Ortus était véritablement fou ou s'il voulait me mystifier. Et je me disposais à interrompre ma visite quand, tout à coup, le bonhomme, se précipitant à plat ventre dans la planche de fleurs, cria « Oh, gredin ! Oh, misérable !» Et je vis sa main noueuse cherchant à étreindre quelque chose qui fuyait devant elle, quelque chose de long, de rond et de vert, qui ressemblait en effet à un concombre, et qui, sautant à petits bonds, insaisissable et diabolique, disparut soudain derrière une touffe.